Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce lundi matin, lundi 28 février 2022. Il est 9h34, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo du week-end et également se tourner vers les sorties de la semaine, ce qu'on fait tous les lundis matins. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de matinale et grasse matinale actu jeux vidéo. De quoi parlera-t-on aujourd'hui ? On va parler eh bien du Pokémon Presents hein, qui a eu lieu hier et qui nous a fait une petite surprise, même une surprise dans la surprise si on peut dire. On aura l'occasion de parler un petit peu de la récente décision de Nintendo vis-à-vis de l'Evo hein, qui sera de ne pas accepter, de ne plus accepter que des tournois de Smash Bros Ultimate et de Smash de manière générale soient disputés. À l'Evo, on fera encore un petit point Ukraine et jeux vidéo avec les développeurs basés dans la région. Et puis également, on parlera de Steam Deck, puisque c'était le lancement du Steam Deck ce week-end, d'un petit peu de business par-ci par-là, des rachats de Tencent évidemment. Et puis bon, on fera le point sur le jeu qui a remporté le maximum de dollars la semaine dernière sur Steam. On se demande vraiment qui c'est. Bon, avant toute autre chose, une bande-annonce de 3 minutes 16 en l'occurrence, envoyée par la Pokémon Company et Game Freak hier durant un live de 14 minutes. Live de 14 minutes qui devait donc faire le point sur... Merci beaucoup Zenimuka, qui devait faire le point sur le futur de la licence Pokémon. Beaucoup attendaient l'annonce d'un éventuel détective Pikachu 2 et même la bande-annonce semblait intimer un détective Pikachu 2, sauf que... Aucun rapport hein, avec Détective Pikachu, on est littéralement sur du troll. Voici Pokémon Écarlate Violet, et pour la fin de l'année. TikTok. Voilà donc, alors Scarlet Violet, c'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais finalement que nous, notre écarlate violet qui casse un peu la boucle. Figurez-vous que ça fera donc un deuxième jeu Pokémon sorti par Game Freak sur l'année 2022 et que du coup, ou alors je ne sais plus, non, si, il est sorti, si quand même. Et que celui-ci sera un véritable monde ouvert, c'est-à-dire que le but c'est d'utiliser ce qui a été fabriqué autour de Légende Arceus, mais cette fois-ci sans séparer ça avec plusieurs régions. Ils veulent, d'où peut-être l'aspect graphique du jeu, proposer un monde d'un seul tenant, monde inspiré, comme le dit Game Freak, par l'Espagne cette fois-ci. Et donc le but c'est de le livrer sur Switch évidemment en exclusivité à la fin de l'année 2022, donc avec des temps de production qui sont, en tout cas des équipes qui sont en parallèle, qui doivent pas être immensissimes non plus, et ils ont eu l'occasion de nous présenter les trois starters que vous avez pu voir dans cette bande-annonce, dont je vous donnerai les noms français: d'un côté Poussacha, de l'autre Chochodil, et enfin Coiffeton. Voilà, je vous laisse vous renseigner sur Poussacha, Chochodil et Coiffeton. On verra évidemment l'état technique, mais aussi peut-être les propositions de ce nouveau Pokémon à la fin de l'année. Je laisserai les spécialistes commenter la question plus avant. J'avoue que Game Freak, c'est pas vraiment ma spécialité non plus, mais on peut peut-être se dire que tant que ça vend, pourquoi ne pas continuer à en vendre, enfin tant que ça achète, pourquoi ne pas continuer à en vendre. N'oublions pas cependant que pour certains observateurs, notamment américains, ça vaut ce que ça vaut, cette précipitation à glisser un dernier Pokémon dans l'interstice avec la techno actuelle, serait un dernier signe s'il leur manquait, parce qu'ils veulent le voir dans cet angle-là, qu'on serait sur la dernière année avant au moins une évolution de la machine de Nintendo qui pourrait justifier donc l'arrivée d'une nouvelle génération qui elle serait un peu plus, qui demanderait plus de travail d'un point de vue technique. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc je vais me la fermer et vous laisser conjecturer là-dessus. Cependant donc, je le rappelle, Pokémon Écarlate Violet 9e génération, sorti d'ici la fin de l'année, et donc retour à la boucle à deux, c'est un duo de jeux comme ça pouvait être le cas pour Épée et Bouclier. Je souhaite tout simplement que ceux qui avaient été déçus par Épée et Bouclier trouvent ici leur bonheur. Si ça se trouve, c'est pas parce que c'est pas hyper joli ou pas à la pointe techniquement que c'est pas fantastique, comme Elden Ring par exemple. Ok, je pousse un peu le bouchon, c'est vrai, ça, j'en conviens. Et peut-être pas à la pointe technique, mais une fois de temps en temps, il est quand même bien beau. Bref. Alors, je sais plus qui je lisais sur Twitter hier qui suggérait que l'évolution maximum de Poussacha, qui est le Pokémon donc plante, que ce soit arbre à chat. Je pense pas que ça ait déjà été explicité, les évolutions, mais ça me semblerait assez évident que ce soit arbre à chat. Oui. Si c'est pas arbre à chat, révolte. Hein. Voilà, pousse à chat, herbe à chat, arbre à chat. Et voilà. Qui a suggéré ça sur un... Zut. J'aime pas ne pas créditer, ça m'énerve. Donc pas de Pokémon Détective Pikachu 2, hein, désolé. Cependant, donc l'annonce également durant ce live d'une nouvelle mise à jour pour Légende Pokémon Arceus, qui est titré, donc qui rajoute quelques contenus, et puis j'imagine aussi pas mal de correctifs. Je vous laisse vous renseigner si vous êtes joueur ou joueuse de Arceus. Nous on continue, on va rester avec Nintendo, et donc l'une des infos de ce week-end, l'une des premières retombées majeures du rachat l'an dernier, en mars dernier si je dis pas de bêtises, de l'événement de jeu de baston EVO par Sony. Donc désormais propriété de Sony et donc de PlayStation, un endroit qui sera forcément très amené à faire de la publicité pour les produits de la marque. Et bien l'Evo 2022 donc, qui doit normalement annoncer la liste officielle des jeux de la compétition le 8 mars prochain, a pris un peu d'avance ce samedi pour glisser un communiqué lié à un jeu en particulier, et pas des moindres, hein, une collaboration dont ils étaient très fiers et qu'ils avaient donc, dont il avait parfois fallu se battre hein, pour la garder à travers les années, la présence au tournoi donc de Smash Bros Ultimate depuis 2019, mais avant ça de Melee, mais aussi de la version Wii U de Smash Bros. Et donc un poids lourd sur lequel ils ne pourront plus compter à partir de maintenant. Donc Nintendo a décidé donc d'aller voir ailleurs avec Smash et de retirer les droits d'exploitation pour du tournoi à l'Evo. Droits qui deviendront donc, du coup exclusifs à des tournois qui ne sont pas pour l'instant explicités véritablement, mais qui seront organisés directement par Nintendo en partenariat avec Panda dans les temps à venir, mais pour l'instant rien n'a été annoncé, pas de date et encore moins la forme ni quoi que ce soit. Donc voilà, les organisateurs de l'Evo du coup se disent évidemment, et là je cite, triste que Nintendo ait choisi de ne pas continuer cette aventure avec eux cette année. Et ils ajoutent qu'ils gardent un espoir, évidemment, qu'un jour, le jeu de baston de Nintendo puisse à nouveau être célébré durant leur événement annuel. Donc, du côté de Nintendo, évidemment, les journalistes sont allés poser la question, donc ils ont eu des réponses, et la réponse de Nintendo mérite au moins le filtre.
Nintendo a apprécié s'engager auprès des fans durant les tournois Evo et souhaite aux organisateurs le meilleur dans leur nouvelle aventure.
Sous-entendu, voilà, vous avez la fin là, donc dans leur nouvelle aventure. La nouvelle aventure de l'Evo, c'est quoi? C'est l'Evo sous l'égide de Sony. Hein. Au cas où, ils précisent quand même, parce qu'il faut rester poli, que Nintendo continuera à évaluer toutes les opportunités pour Smash Bros, dont l'Evo, quand viendra l'heure de planifier d'autres événements en ligne ou hors ligne pour Smash. Et donc pas de Smash pour la première année où justement l'Evo aurait pu profiter du roster 100% complet de Smash Bros Ultimate avec Sora et tout le bordel. Et bon, quand je dis pas de Smash, voilà, ce genre de souci, c'est pas la première fois que ça arrive. L'Evo a dû se battre plus d'une fois hein, pour pouvoir diffuser notamment des matchs de Smash Bros. On se souvient hein, qu'au début des années 2010, on devait être en 2013 ou 2014, je ne sais plus, Nintendo, qui n'était pas encore très habitué du streaming, avait fait tout un foin sur le fait qu'il ne voulait pas que les matchs de l'Evo de Smash Bros, soit de Melee en l'occurrence, soient rediffusés en ligne. Il avait fallu du coup que joueurs et fans gueulent très très fort pour que les plans de Nintendo changent. Et d'ailleurs, je reste persuadé encore aujourd'hui que c'est l'un des événements qui a permis à Nintendo de se mettre un peu à un minimum à la page vis-à-vis de Twitch de manière générale, même s'il y a encore du retard, et notamment parfois sur la manière d'envisager la représentation de ses propres événements. Hein. On a vu l'an dernier quand il y avait cette fameuse rumeur comme quoi on allait se faire striker si on retransmettait leur événement E3, bref. Alors, cette fois avec le rachat par le groupe PlayStation, avec le rachat par PlayStation, c'est un peu plus compliqué quand même. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi qui ai travaillé dans la presse quelques années, moi qui ai vu, de mes yeux vu, un NDA Nintendo, je suis pas vraiment surpris en fait qu'une boîte comme Nintendo ait un vrai problème avec l'idée de prêter son jeu à un événement d'un autre consolier en fait. Le seul fait, j'imagine, ça doit même dans les guidelines de la marque, le seul fait que le logo Nintendo puisse être plus petit sur une sur une communication officiel que celui de PlayStation par exemple, je les imagine bien déjà en faire un problème en soi. Voilà, et puis il y a l'appareil publicitaire tout autour évidemment, hein, avoir un jeu qui en l'occurrence donner du contenu à un événement qui va être un théâtre publicitaire pour Sony. On rappelle que cependant, ça ne veut pas dire que l'Evo sous l'égide de PlayStation est un endroit où on jouera obligatoirement sur PlayStation. Hein. Ils ont déjà communiqué là-dessus. J'imagine qu'il y aura des tournois qui vont transitionner vers PlayStation quand c'est faisable et quand ça ne pose pas de problème. Mais de manière générale, le but, c'est quand même de respecter les plateformes où sont normalement les communs, quoi. Et puis bon, là, pour le coup, ce match, la question ne se posait pas. Bah si, Yoxotot, non, là j'en ai pas reparlé parce que du coup ils ont revu leur orga en conséquence. Enfin, c'était pas le sujet du jour, pardon, mais j'en avais déjà parlé précédemment. Et puis c'était 2019 si j'ai pas de bêtises, 2020, 2019, mais depuis voilà, la transformation a été faite. En général, faut pas demander à Nintendo, ils diront toujours non. Sauf si vous demandez des Pokémon, par exemple. Ah, oula, c'est un peu trop la teuf ce morceau. Oh. C'est bien ça. On est bien installé. Alors, on peut faire un petit point peut-être sur, donc, vous, comme on l'a fait vendredi, hein, sur la situation... la situation actuelle en Ukraine avec l'invasion russe, et je vous avais dit que ben, je laisse les spécialistes parler des choses dont je ne suis évidemment pas spécialiste, mais j'aimerais quand même qu'on parle aussi de ce que ça vient créer comme réaction dans le jeu vidéo, que ce soit voilà, des équipes qui rassurent le public vis-à-vis de la sécurité de leurs employés, aux opérations de soutien qui sont déclenchées un petit peu partout, et donc bah, tant qu'il y aura des choses à dire sur le sujet, je continuerai à en faire un filage comme on a pu le commencer vendredi. Juste après qu'on ait livé vendredi, c'était vendredi après-midi, on avait donc CD Projekt Red, enfin CD Projekt, hein, le groupe global, donc développeur de Cyberpunk et de The Witcher, qui décidait donc de se déclarer publiquement ami et solidaire de l'Ukraine et de son combat, en encourageant évidemment les fans de la marque et les fans des jeux à donner à l'action humanitaire polonaise qui, elle, s'occupe de rediriger les fonds vers les populations civiles ukrainiennes, soins, transports, relogements et ainsi de suite. Et quelle meilleure manière finalement d'encourager à donner ben, que en donnant, en l'occurrence. En l'occurrence, ici, 1 million de zloty polonais, ce qui transféré en euros est un petit peu au-dessus des 200 000 euros, donc 210 000 euros, quelque chose comme ça. Sans passer par... l'occurrence, c'était quand même quelque chose. Sans passer par, si vous achetez le jeu, vous pourrez... Enfin, les revenus seront reversés, etc. Vu les ventes de Cyberpunk 2077, ça aurait été un peu mal vu, j'imagine, de passer par un procédé de ce genre. Eux ont directement, du coup, donné 210 000 euros donc, à l'action humanitaire pour les réfugiés ukrainiens. On avait parlé vendredi également des développeurs qui mettent leur jeu à profit pour justement capter des donations parce que bah, ils n'ont pas en banque de quoi donner 210 000 euros comme ça. On avait notamment mis en avant la décision des développeurs de 11 Bits, donc This War of Mine, qui est un jeu littéralement sur... sur le sort des populations civiles durant une guerre, un jeu qui se passe du coup plutôt dans l'est de l'Europe d'ailleurs, qui avait annoncé que durant quelques jours, la semaine qui vient, tous les achats de This War of Mine sur toutes les plateformes, une fois la part de la boutique prise, bah, les profits étaient reversés entièrement à des actions humanitaires vis-à-vis de la situation ukrainienne. D'ailleurs, au passage, dans la foulée, Good Old Games, GOG, avait décidé donc, GOG, qui fait partie du groupe CD Projekt, du coup, avait décidé de laisser filer sa com sur les ventes de 11 Bits, de This War of Mine. Donc si vous achetez This War of Mine sur GOG, et ben en fait, l'intégralité, il me semble, de votre achat part directement dans cette action, et d'autres développeurs se sont manifestés depuis, et je me suis dit, puisqu'on a du temps ce matin et puisque les jeux concernés sont tous des bons jeux, et bien pourquoi ne pas faire un petit focus là-dessus et vous montrer ces bonnes annonces et vous dire voilà, si vous achetez ces jeux-là, bah vous pouvez faire une bonne action au passage. On va commencer avec State of Play Games, donc un studio tchèque qui est créateur du très joli Lumino City. Je ne sais pas si vous connaissez Lumino City. Donc, et eux annoncent que tous les profits des ventes du jeu sur la semaine qui vient seront reversés à la Croix-Rouge, qui s'occupera ensuite de tout ça derrière, l'App Store, Google et Steam sont concernés, quel que soit l'endroit où vous achetez le jeu. Je vous rappelle que Luminosity est un jeu d'aventure où tous les décors ont été construits, designés, construits, peints et filmés, avec donc des mouvements de caméra réalistes. Vous vous souvenez probablement de ce jeu, il a un look absolument inoubliable, c'est celui-ci. Ouais, il en jette un peu un, hein, Luminosity. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Il en jette un petit peu beaucoup. Luminosity, désolé pour le son. Donc disponible, je le disais. Ah là là, c'est pas possible aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Disponible aujourd'hui donc depuis sur PC et sur mobile. Pour apprécier au mieux les images, si vous ne disposez pas d'une très grande tablette, j'aurais tendance à vous recommander de jouer à la version PC si vous avez envie de le prendre. Et donc, je le rappelle, durant la semaine à venir, tous les profits réalisés par Luminosity vont à la Croix-Rouge tchèque, qui s'occupe ensuite de rediriger ça vers les réfugiés ukrainiens. Donc ça, c'est pour Luminosity, donc jeu d'aventure et de puzzle, vous l'aurez compris. Mais il y en a d'autres, et le prochain justement de cette série de jeux que je voulais mettre en avant parce qu'ils font partie de cette action caritative, c'est probablement le jeu dont vous avez besoin, dont nous avons besoin actuellement si on a du mal à garder le moral, si on a besoin de rire, et peut-être de rire bêtement. Amanita Design, c'est également prononcé ami évidemment de la défense ukrainienne actuelle, et ça va concerner trois de leurs jeux dont les profits pour la semaine à venir iront directement à une association d'aide aux réfugiés. Et l'un de ces trois jeux, c'est Chuchel. Et Chuchel, c'est... C'est colère, hein. Alors, Chuchel, pour que vous sachiez un petit peu vers quoi on se dirige avec ce jeu. Alors, je lisais tout à l'heure sur le chat, WarioWare-like, oui, quelque part, un écran, un puzzle, en l'occurrence. Chuchel, dans ses bandes annonces, est assez gueulard, et effectivement, il y a beaucoup de trucs qui s'empilent, et vous avez l'impression que c'est insupportable. La personne, la personne qui s'est occupée du test sur Gamekult à l'époque avait écrit que c'était probablement le meilleur jeu en termes de jeux vidéo, la meilleure interprétation des mécaniques humoristiques de Charlie Chaplin. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est un écran, un rire, et c'est beaucoup moins prout que les lapins crétins. Mais c'est des timings comiques en fait. C'est des timings comiques et c'est du comique de gestes et bon, du comique de bruit aussi, vous l'aurez remarqué. Mais moi je trouve ça vraiment à mourir de rire. Et peut-être, voilà, intéressez-vous au jeu en dehors de l'écosystème de ce trailer dont le but était évidemment de faire du plus et du plus et du plus. Bref, Shushel fait partie de ces jeux que vous pourrez vous procurer et donc faire une bonne action. C'est également le cas dans un tout autre registre avec le même studio de Creaks, qui est leur avant-dernier jeu, si je dis pas de bêtises. Creaks, donc, un personnage qui trouve un trou dans le mur de sa maison et commence à descendre et réalise que sa maison est en fait un monde très très particulier entre plateforme, énigme et infiltration, avec une BO incroyable. Creaks, donc, une ambiance de malade, musicalement également. Alors musicalement, cette fois-ci, ce n'est pas Floex, ce n'est pas Tomasz Dvorak, comme ça a pu être le cas par le passé. Il s'agit de The Hidden Orchestra. Peut-être que vous connaissez The Hidden Orchestra, sinon je vous recommande d'écouter. Vous risquez, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, de passer une excellente journée. Et donc celui-ci aussi est concerné, le troisième jeu d'Amanita Design étant concerné justement par cette opération de reversement des profits, c'est Machinarium tout simplement, et je ne vous ferai pas l'affront de vous repasser une bande-annonce de Machinarium. Je pense que vous avez déjà un petit peu le mémo pour celui-ci, mais bon, pour Shushel et pour Creek, c'est peut-être un peu moins le cas. On va refaire un point sur Ubisoft, en l'occurrence, dont j'avais parlé vendredi. Ubisoft qui avait communiqué de manière très très succincte donc sur ces deux antennes ukrainiennes, hein, une à Odessa et l'autre à Kiev. Du coup, ça fait plus de 1000 personnes en tout et pour tout basées, qui travaillent pour le compte d'Ubisoft en Ukraine, ou en tout cas qui y travaillaient, puisque pour l'instant évidemment toute l'activité a été gelée et les personnes ont été renvoyées chez elles. Mais pas seulement, hein, parce que j'avais dit voilà, une communication très succincte, on avait vraiment du mal à savoir à quel point voilà, Ubisoft se disait très concerné par la situation et avoir pris des mesures, mais on n'avait pas le détail de ces mesures, et je vous disais que manifestement en interne non plus, les autres studios n'avaient pas trop eu le détail des mesures. Quelques heures après que j'ai raconté ça en VOD, boum, on avait à la fois une communication externe et une communication interne qu'ont reçu les développeurs, qui permettent de mieux savoir ce que le groupe d'Yves Guillemot avait prévu pour ses employés. Quelques heures plus tard, on a appris qu'en gros ils avaient pris les devants et avaient donc préparé plusieurs scénarios depuis plusieurs semaines désormais de mobilisation pour assister leurs employés au cas où la situation se dégraderait. Notamment la création d'une réserve financière qui était débloquable en cas de besoins spéciaux et de coûts exceptionnels pour les employés, pour les membres d'Ubisoft. Un fonds financier qui a pu, tel que le dit Ubisoft, aider à couvrir les besoins de ses employés pour le transport ou pour du relogement. Les salaires avaient également été payés en avance aux employés au cas où le système bancaire ukrainien venait à s'effondrer complètement ou en tout cas à rencontrer des problèmes pour que leurs employés ne se retrouvent pas sans le sou. Les salaires avaient été versés en avance et donc on y apprend ensuite qu'Ubisoft avait également prévu des solutions d'hébergement au sein des pays limitrophes, donc pour que les employés qu'ils désirent puissent aller s'y réfugier, avec en plus de ça mise en place de hotlines pour prendre le relais si les infrastructures de communication habituelles devaient rencontrer des problèmes. Donc quand ils disent infrastructures de communication habituelles, on imagine qu'ils parlent de la manière dont ils ont l'habitude de discuter, mais donc voilà, là des hotlines téléphoniques pour pouvoir garder le contact avec les employés sur place, savoir s'ils étaient au bon endroit au bon moment, etc., s'ils avaient atteint leur solution de relogement comme prévu, etc., etc., etc. Donc en fait une gestion en tout cas plutôt bien préparée à l'avance de la chose, c'est effectivement tout à leur honneur. Et Ubisoft termine en disant qu'ils surveillent la situation et qu'ils réfléchissent aux autres axes d'amélioration de ce plan d'assistance pour les semaines à venir, en rappelant que les employés sont évidemment soit en famille, ont déjà entamé leur déplacement à travers l'Ukraine. Voilà donc un exemple beaucoup plus détaillé qui fait plaisir, puisque c'est vrai que ça nous change des communications d'Ubisoft en 5 ou 6 lignes qui ne disent rien. Cette fois-ci, on sait des choses et c'est ma foi fort agréable et, comme je le disais tout à l'heure, honneur. Donc, ouais, on en parlait tout à l'heure, Zenibuka, du fait que CDPR, CD Projekt, a donné un peu plus de 200 000 euros. Ah, écoutez, je ne coupe pas la musique. Hein. Certes, là, ça sera plus forcément l'ambiance parce qu'on va parler de Steam Deck, mais si je coupe ça, je pense qu'on va venir me planter chez moi. Donc, la tournée médiatique du lancement du Steam Deck, forcément, a eu lieu ce week-end. C'était donc des tests de la machine. Des développeurs qui prennent la parole sur la version optimisée Steam Deck de leur jeu, évidemment, et quelques interviews un peu exclusives de Gabe Newell, donc patron de Valve, assez rare hein, généralement dans les colonnes des médias jeux vidéo. Et donc, ils ont notamment parlé de... Voilà, ils ont parlé de plein de choses. Ils ont parlé de consolidation de l'industrie du jeu vidéo. Ils ont parlé de NFT, souvent, quand ils ont eu l'occasion de discuter avec Gabe Newell. Mais par exemple, chez PC Gamer, ils ont eu l'occasion de parler également de Game Pass. Et donc, il répond notamment à une question que pose PC Gamer à propos des services d'abonnement de manière générale et de l'intérêt que lui pourrait avoir à la création d'un service du genre pour Steam. Et sans surprise, lui estime que c'est tout sauf son business, en fait, hein, et qu'ils n'ont pas d'intérêt à construire une offre du genre. Cependant, il voit tout l'intérêt du Game Pass dans la stratégie de Microsoft. Et puisque, de toute façon, il le sait, PC Gamer va lui poser la question juste derrière, il embraye directement en donnant son avis sur l'idée d'une entrée de l'offre Game Pass directement sur Steam, et la phrase exacte c'est « Nous serions plus qu'heureux de travailler avec eux à une arrivée du Game Pass sur Steam », ce qui ne surprendra certainement personne, dans la mesure où d'autres y sont déjà, comme l'EA Play d'Electronic Arts depuis 2020, et également le fait que Phil Spencer et Gabe Newell se font des petites parties de tennis médiatiques depuis des années maintenant, et rappellent à chaque fois à qui veut bien l'entendre combien ils estiment estime la stratégie d'entreprise de l'autre, etc., etc. Encore récemment, Spencer a eu l'occasion de redire sa curiosité et son intérêt pour le Steam Deck, malgré le fait que ce ne soit pas sur une architecture Windows. Et donc, s'il venait à trouver une entente du genre un jour, on n'aurait donc plus à formater un Steam Deck pour y installer un autre OS. Tout serait en fait au même endroit et le deck pourrait devenir à la fois une boîte à Steam et une boîte à Game Pass, clé en main, dès la réception. Et ça, c'est une idée, je trouve, effectivement, assez redoutable, surtout d'un point de vue de la stratégie de Spencer, qui consiste à porter donc, l'abonnement Game Pass sur un maximum d'écrans, un maximum de personnes. Et voilà, donc... ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire qu'en tout cas personne ne voit pour l'instant un mur, un truc qui empêche ça d'arriver. Donc je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas à un moment ou à un autre. Et au passage, du coup, je vous recommande également l'entretien de Gabe Newell chez Rock Paper Shotgun. Autre, tout à l'heure c'était PC Gamer, là c'est Rock Paper Shotgun. Si vous lisez l'anglais, parce que bon, bah, c'est un média anglophone, il y donne notamment son avis sur les tentatives passées de Valve en matière de matériel, comme les Steam Machines. Il faut bien en passer par là. Il parle également des transformations actuelles de l'industrie, notamment la consolidation, avec un avis que je trouve très intéressant et très pertinent. Et il y a un passage également très intéressant et très pertinent sur les NFT et les crypto games qui, pour rappel, sont bannis de Steam, alors que sur le reste du monde est plutôt en train de pousser pour que ça arrive. Avec son avis, l'avis de Gabe Newell, à la fois sur la technologie et d'un côté, évidemment, et de l'autre sur les entreprises et les acteurs qui utilisent actuellement cette technologie pour rentrer dans le jeu vidéo. Ce qui sont deux choses très différentes, et les deux avis du coup se complètent et du coup créent quelque chose d'assez intéressant. Donc vraiment un très chouette article, et de manière générale, je trouve que bah, effectivement la force de Newell, c'est qu'il apparaît rarement dans les médias, mais quand il cause, il a bien préparé ce qu'il avait à dire, quoi. Salut Nekuro, bienvenue, et bon lundi à toi. Et la taxe de Steam sur l'abonnement qui va l'empêcher, Gotos, c'est loin d'être fait le Game Pass sur Steam. Ah mais attention, Kassim, j'ai pas dit que c'était loin d'être fait. Il n'y a aucune barrière, sinon leur négociation à eux. Ils sont, je pense, assez volontaires et à partir de là, c'est la question de qui prend combien, ainsi que la question des le catalogue des jeux tiers. Ouais, ils pourraient très bien avoir un Game Pass for Deck, hein. Honnêtement, t'es pas obligé de faire le même Game Pass que le Game Pass PC. Hein. Je fais un Game Pass for Deck et puis voilà. Ils en ont déjà trois des offres, une quatrième, qu'est-ce que ça... Ça va. Voilà, pour l'instant l'entente est cordiale et c'est tout. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur le fait que je n'intimais pas autre chose. Est-ce que Gabe a évoqué le dev de In the Valley of Gods? HK No Life, je pense vraiment que c'est un mot... je pense que si tu en parles à Gabe, je pense qu'il fera un truc de western et te répondra sûrement un truc du genre « Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis fort longtemps. » Non, le mot n'a pas été prononcé. Merci beaucoup La Tanière pour les 5 euros sur YouTube, ça fait très plaisir. Merci pour le soutien de manière générale encore une fois et bienvenue. Désolé, c'était un petit peu trop aigu là. Voilà, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus... Ouh. Est-ce que Gabe Newell a parlé de Final Fantasy? Alors, oui. Ils m'ont retrouvé. Les fans de FF14 m'ont retrouvé. Donc Gabe Newell joue à FF14. Voilà. Vous pouvez accrocher un poster de Gabe Newell à côté de votre poster de Orchefan chez vous. Voilà, je l'ai dit. Il joue à FF14 avec son fils. Voilà. Ben oui, parce que Gabe Newell, à un moment aussi, dans les interviews, il faut bien... qui disent « Regardez, moi aussi, je suis un gamer !» Et en l'occurrence, c'est son fils qui joue à FF14 et qui a besoin de heal, et c'est lui qui est là, voilà. Merci beaucoup, VNKS, pour les 5 euros sur le type. Merci pour le soutien. Nekuro, j'en ai pas parlé directement, mais oui, effectivement, je pense que si on s'est intéressé un temps soit peu au Steam Deck ce week-end, on a vu aussi toute la scène de l'émulation commencer à faire mumuse. Ça n'aura échappé, j'imagine, à personne. J'ai pas prévu d'en parler à Soulmaster. Si j'en avais parlé, j'en aurais probablement parlé des Dice Awards, j'en aurais probablement parlé pour le discours de Laura Mill, qui est donc la chef des studios Electronic Arts, qui était assez intéressant, notamment sur, elle n'a pas nommé Activision, mais elle a quand même bien scud Activision à un moment dans son discours. Mais j'avoue que sinon, je ne l'avais pas prévu dans mes news du matin. Allez, nous, on continue. avec, on va parler du PAGG, PAG ou Pan African Gaming Group. Alors la semaine dernière, et ça j'aurais pu vous en parler vendredi, le site Games Industry Africa se faisait donc l'écho de la fondation du PAG, Pan Africa Gaming Group, qui est donc un regroupement de développeurs basés sur le continent africain, dont le but sera d'accélérer, et suivez bien parce que c'est très important, la croissance et la reconnaissance de jeux vidéo qui peuvent être issus. Là, je vais vous citer quelques pays qui abritent des studios qui font partie du PAG, donc Sénégal, Cameroun, Ghana, Tunisie, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Afrique du Sud. Et donc, quand on parle de reconnaissance, il est ici moins question de s'exporter que de mieux implanter et utiliser le jeu vidéo en Afrique, et notamment via le jeu vidéo casual et mobile, l'immense distribution de dispositifs mobiles en Afrique. Et donc, pour créer des jeux qui reflètent la culture de ceux qui les font et qui prennent des rôles d'éducation en matière de santé, d'égalité, de climat, etc., etc. Donc, ça passera par la mise en commun des expériences entre les studios, par des partenariats. Mais qu'est-ce que j'ai ce matin ? Des partenariats avec des plateformes de distribution dématérialisées comme Gara, qui est une plateforme de vente de jeux africaine. Mais le PAGG, du coup, vise également plus loin en pensant à la prochaine génération de développeurs avec un projet d'espace de formation, de coworking et d'incubation. En fait, le but, c'est de répliquer la réussite de celui qui a été créé à Nairobi, qui s'appelle le Game Development Center, au Kenya donc, et d'en ouvrir d'autres à travers l'Afrique, avec comme objectif premier, donc, avec ce Pan African Gaming Group, en tout cas selon le patron du studio Leti Arts, qui est basé au Ghana, c'est d'incuber l'industrie du jeu vidéo africaine de demain, différente de celle qui existe aujourd'hui. Parce que par exemple, aujourd'hui, vous avez à Nairobi, justement dans ce Game Development Center, ils ont un partenariat avec l'école Rubika. Ils fabriquent donc des super techniciens, mais des super techniciens qui se retrouvent souvent à faire du travail externalisé de studios venus d'autres pays qui envoient une partie de leur boulot en outsourcing. Et donc le but ici, ce serait de former une économie du jeu vidéo de demain qui ferait du jeu vidéo africain pour l'Afrique et qui irait chercher justement ce public et cette audience qui est présente, pour qui on ne fait pas des jeux quoi. Donc vous pouvez vous renseigner sur le sujet, hein, notamment l'article, excusez-moi, j'ai mon dos qui est en train de me lâcher, l'article sur Games Industry Africa qui pourra vous filer quelques infos supplémentaires. Donc ça, j'aurais pu en parler la semaine dernière. Ce dont je n'aurais pas pu parler la semaine dernière en revanche, c'est One Sea Earth Entertainment. Et alors là, au début, j'ai un peu levé un sourcil un peu inquiet au début. Il n'est pas de bonne semaine qui ne commence pas. On ne peut pas tromper mille fois une personne. Pas de bonne semaine sans un bon rachat par Tencent. C'est mieux comme ça, je trouve. Hein, c'est plus fluide, je trouve. Ouais. Et puis, ouais, comme ça, j'évite de rater ma phrase. Donc, on parlait la semaine dernière du rachat par Tencent du studio Inflection Games. Et vendredi, en fin d'après-midi, on apprenait que le méga groupe chinois avait également croqué non pas un développeur, mais un éditeur, One Sea Entertainment. Alors, petit distinguo qui a son importance, si vous connaissez le nom One Sea Entertainment, c'est la filiale polonaise d'édition et de développement de jeux vidéo de la compagnie One Sea, qui, en l'occurrence, est une maison mère située, elle, en Russie. Parce que c'est important parce que, voilà, plus d'une personne s'est étonnée de voir Tencent, vendredi après-midi, annoncer le rachat d'une société russe. D'un point de vue du timing, c'était un peu particulier. Donc en gros, c'est la filiale polonaise qui entre dans le giron de Tencent. Alors c'est quoi One Sea Entertainment ? En licence, que vous pouvez connaître, c'est King's Bounty. C'est notamment eux qui éditent le dernier King's Bounty, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est Ancestors Legacy également, ou c'est Men of War. Tencent s'accapare évidemment l'organe d'édition, mais aussi le studio qu'il possédait, à savoir QLOC. C'est QLOC. Et donc c'est une entreprise de plus de 500 personnes qui est spécialisée dans les portages pour PC avec des partenaires de prestige. Donc QLOC ont travaillé sur les versions PC de Dragon's Dogma, Dark Horizon, de Dark Souls Remastered, de Mortal Kombat 11, la version Stadia de Cyberpunk 2077 également, ou encore Hellblade, voilà. En l'occurrence, donc toute cette grosse équipe rejoint également Tencent. Alors QLOG devrait garder son identité, mais Tencent a déjà annoncé que 1C Entertainment allait changer de nom dans les 6 mois pour marquer la rupture avec leur ancien propriétaire. Je pense pas que ce soit lié au fait que l'ancien propriétaire soit russe. Je pense que c'est surtout que vous ne pouvez pas simplement racheter une filiale qui porte le même nom et garder son nom tel quel. Tout comme, je pense, Embracer, quand il y a quelques semaines, annonçait le rachat de la branche Entertainment de Perfect World, qui est un groupe chinois. Embracer, ils vont pas garder Perfect World Entertainment. Soit ils vont dissoudre l'entité au sein du groupe Embracer, soit ils vont la renommer pour refléter ce rachat. Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas communiqué sur le sujet. Donc, je vais vous poser une question simple. Quel jeu a fait le plus de revenus sur Steam la semaine dernière ? Le Steam Deck, c'est une proposition. Lost Ark, voyons voir. Alors, il y a évidemment le Alexandra Lederman habituel. L'Anneau des Vieux. J'aime bien l'Anneau des Vieux, c'est pas mal. Qui a réalisé les meilleurs revenus sur Steam la semaine dernière ? Là, comme ça, je suis envahi par le doute. Elden Ring Deluxe Edition. Destiny 2 The Witch Queen, Elden Ring, Destiny 2 The Witch Queen et le Steam Deck. Donc, Elden Ring évidemment hein, voilà, s'impose, c'est une surprise pour absolument personne, puisque je rappelle qu'il s'est hissé lors du premier jour d'exercice de son lancement sur PC, il s'est hissé dans le top 10 des jeux les plus pratiqués en même temps par un nombre de joueurs en simultané de Steam. Il a rebattu son propre record d'ailleurs durant le week-end, hein, puisque dimanche, nouveau pic à 891 000 joueurs, ce qui fait qu'il était à environ 20 000 joueurs simultanés de prendre la place dans le top d'un certain New World, en l'occurrence. Et donc derrière Cyberpunk 2077, qui était revenu grâce à son patch, qui reste dans le top 10, qui est donc tombé de la 5e à la 10e place, Total War Warhammer 3, qui n'a, semblerait-il, pas bougé, j'ai l'impression. Dying Light, qui redescend mais qui continue à vendre, l'air de rien. Le Steam Deck, vous le savez, hein, Steam met également dans les statistiques de SteamDB, on a aussi le Steam Deck, donc c'est pas vraiment surprenant. Mais Destiny a quand même réussi à pas se faire entièrement écraser par tous les packs de vente de Elden Ring. J'imagine que c'est les différentes éditions de luxe, préco, etc. Parce qu'il faut pas oublier qu'en début de semaine dernière, c'était encore les préco d'Elden Ring, et que préco et le jeu après son lancement sont deux items de boutique différents, d'où l'explication de ce petit bordel tel que vous le voyez là. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le sujet. Il est effectivement en train de tout péter, et comme on le disait la semaine dernière, au cas où vous n'auriez pas vu le format de la semaine dernière, il va être important désormais pour lui de relever sa note, et relever sa note en réglant pas mal de problèmes d'optimisation de cette version PC, puisque certes le jeu s'est extrêmement bien vendu, et se pratique à tout le monde y joue, mais il reste cette question fondamentale du stutter, des problèmes de performance qui font que ça râle très fort sur les forums de Steam à l'heure actuelle. À un moment donné, faut patcher. Exactement, ton truc. Je pensais pas que Dying Light 2 serait encore dedans, dit La Tanière. Ouais, tu vois, enfin, comme on disait, hein, l'attente autour de Dying Light 2 a été vraiment très forte. Hein. C'est vraiment... je pense que quand Techland va communiquer sur ses chiffres de vente, on risque d'halluciner. Alors, c'est quoi mon avis sur le jeu ? C'est peut-être pas effectivement le moment, parce que j'aimerais boucler vite pour pour pouvoir retourner à jouer. Donc voici mon avis sur le jeu. Mais je suis complètement à fond dedans. J'ai 37 heures. Je ne fais plus que ça. Je pense à ça quand je fais autre chose. Là, j'essaie vraiment de me concentrer sur la matinale, mais c'est compliqué. Voilà où j'en suis un petit peu. Et le prochain sujet sera moins un sujet qu'une suggestion de lecture et de renseignement, si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment pas ma spécialité, et que je laisserai donc les spécialistes s'y intéresser. On a également appris ce week-end que miHoYo, donc l'éditeur de Genshin Impact, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la politique en matière d'investissement du patron de miHoYo, qui fait du free-to-play et du gacha, ça c'est sûr, mais utilise notamment une bonne partie de ses finances pour investir dans différentes formes de recherche. Alors, il y avait déjà eu la création d'un centre de recherche avec donc des techniciens issus de chez miHoYo, puis également des spécialistes, un centre de recherche donc sur l'interface cerveau. Et là maintenant le patron de miHoYo investit très fort donc dans une initiative de recherche pour créer le premier réacteur à fusion nucléaire. C'est pas de la fission nucléaire, c'est de la fusion nucléaire, renseignez-vous, vous verrez, c'est pas du tout la même chose. Qui puisse être effectivement finalisé, terminé et déployable sur le marché de l'énergie. Donc je vous conseille d'aller sur Google et de regarder ce que c'est qu'un tokamak. Un T-O-K-A-M-A-A-K. Bref, un tokamak, vous verrez. Une histoire de torée électromagnétique qui permet de contenir une fusion nucléaire. Bref, tout ça m'a l'air extrêmement extérieur aux jeux vidéo, et c'est effectivement ce que fait là-dedans qu'investit miHoYo à l'heure actuelle. Et ils avaient depuis longtemps cette guideline dont ils parlaient beaucoup, l'idée donc d'être des gros, ils le disent eux-mêmes, des gros otaks qui veulent sauver le monde. Avec du free-to-play, ce qui est très rigolo quand même. Donc il y a une manière peut-être de... Certains y verront probablement une espèce de greenwashing du gacha ou j'en sais rien. Mais bon, si vous voulez lire sur le sujet, il y a de quoi faire. Alors, en gros, on veut créer des sortes de mini-soleils pour faire de l'énergie. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je voulais pas trop me lancer dans le truc, parce que je me suis dit, si tu commences à parler, tu vas sombrer. Écoutez, je vous propose, avant qu'on fasse le calendrier des sorties de la semaine, de s'accorder une petite bamboche. Mais laquelle ? Je veux pas la rater. Je veux un truc vraiment bien, un truc qui réveille bien. Excusez-moi, je choisis un morceau de musique, c'est important de... Voilà. Non. Non, c'est pas bon non plus. J'ai peur de me faire des MCA sur celle-ci. Ah ! Ça fait un bien fou. Puis en plus, c'est le jeu auquel vous voulez pas jouer. C'est parti. Nous sommes 1534, merci beaucoup, bienvenue, 2 minutes de bamboche, on se détend, on s'étire, j'essaie de pas me péter le dos, et on part ensuite sur le calendrier des sorties de la semaine, et ensuite, Elden Ring. Enfin, pour moi, offline, n'est-ce pas ? Bien sûr. c'est le même visage que d'habitude. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents encore une fois pour la matinale jeux vidéo. J'espère que ça vous plaît. Je vous rappelle que cette semaine ne sera pas bien différente des autres. Qu'est-ce que j'ai avec mon micro aujourd'hui, moi ? Pas bien différente des autres semaines en termes de programme. Je serai là donc pour les news lundi, mercredi et vendredi. Lundi et mercredi à 9h, vendredi à 13h. Et mardi et jeudi, si tout se passe bien, je devrais me déboulonner de l'autre jeu qui ne fait que me voler ma vie pour venir jouer à d'autres trucs avec vous. Peut-être des démos, peut-être des jeux justement de cette semaine. Et voilà, respectez les engagements tout simplement. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup pour les follow, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai pas remercié Lantamo, Inu, Draigan, peut-être et Frozen Tux. Je crois que ça, j'avais fait en revanche. C'est bon, on a fini. C'est parti pour le calendrier des sorties. Maintenant, je peux récupérer mon nez. Merci bien.
En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
Au calme. Voilà. Alors la question qui est posée sur le chat, c'est est-ce que nous nous dirigerons vers du live sur Elden ? Je veux d'abord terminer le jeu seul de mon côté une fois. Voilà. Parce que le but, c'est vraiment de me protéger moi des spoilers. Alors. Il faut que j'envoie Kratos se faire voir, bougez pas. Pour être tout à fait honnête, je combats un éternuement. Ça va le faire. Ça va le faire, j'y crois à mort. Les sorties donc de la semaine. On va commencer par une sortie qui sera pour aujourd'hui sur Steam. Gratuit en l'occurrence. Peut-être que vous avez raté ça. C'est un peu. Je crois que c'était pile poil le moment où on partait à l'apéro. Vendredi peut-être. Un nouveau jeu de chez Valve. Gratuit. Oui. Alors tournez vers le Steam Deck, mais jouable également si vous n'en avez pas. Cependant, vu que c'est une sorte d'introduction aux commandes du Steam Deck, enveloppé dans l'univers de Portal, peut-être que ce sera un peu moins fun à jouer sur PC. Mais ça sort aujourd'hui sur Steam, c'est gratuit, ça s'appelle Desk Job. Valve le considère comme un court-métrage jouable, donc une manière, voilà, un court jeu vidéo jouable, encore une fois gratis, avec un tout petit teaser de 30 secondes.
My name's Grady. That is your inspection desk. You are a product inspector. You think your job is bad? Well, your job is bad.
Et voilà, c'est tout. Ça sort aujourd'hui, 1er mars. Non, pas aujourd'hui, pardon. Attendez une seconde. Non, c'est demain, pardon, c'est demain. Excusez-moi, le 1er mars, c'est demain. Aperture Desk Job, donc je le rappelle, gratuit. Alors que Pop hurle dans le couloir, tant il a envie d'un Steam Deck lui aussi. Et donc dans l'univers de Portal, comme vous l'aurez remarqué. Donnez-moi une seconde. C'est bon, ça va le faire. On continue avec les sorties de demain. Il y en a quelques-unes. Hein. Le 1er mars est une très très grosse journée de cette semaine de jeux vidéo. Vous avez peut-être joué par le passé au premier Phare. Qui attendait donc sa sortie, FAR, y a rien à faire. Et Changing Tides, donc le nouvel épisode, sort demain.
Thank you.
Changing Tides, du coup, qui, comme vous avez pu le voir, sort à la fois sur PlayStation, sur Xbox et sur PC, avec une disponibilité en jour 1 dans le Game Pass demain. Si vous avez trouvé ça très beau, que vous avez été charmé soit par l'ambiance, soit par la musique, soit par les deux, et qu'en l'occurrence, vous voulez rattraper le premier, qui avait une apparence assez similaire et surtout déjà une BO d'exception, c'est possible. Si vous avez 2h30, maximum 3h si vous prenez votre temps ce soir, vous pouvez tout à fait vous faire Lone Sales avant de faire Changing Tides et être prêt pour le lancement. Voilà. Pour simple information, le premier était un jeu court et j'imagine que le deuxième doit être un peu plus long. Il me semble qu'ils avaient parlé presque doubler le temps de jeu ou quelque chose du genre. Mais bon voilà, c'est pas un mastodonte. Changing Tides donc, ça c'est demain, mais également demain, tout autre délire, un peu moins contemplatif, c'est vrai, on est chez Devolver, c'est la sortie, enfin, après un nombre incalculable de bandes annonces, de Shadow Warrior 3. Oui, Aloy, elle arrête pas de parler pendant que je joue dans Horizon 2, ça me rend fou. Non, je plaisante. Évidemment que le personnage va moins parler en jeu dans Shadow Warrior 3. Le problème, c'est qu'au niveau des bandes annonces, pour une bonne, ils en font deux ou trois qui sont pas tip-top. Voilà, chez Flying Wild Hog et chez Devolver, hein, parce que du coup, c'est des co-créations. Au niveau des bandes annonces, on verra. Hein, les tests vont tomber et vous aurez de quoi vous fixer un petit peu sur le type d'humour à attendre. Sachant que oui, il y a des bandes annonces qui, même avec de l'humour, on va dire, à la Deadpool, m'ont fait marrer par le passé. Bon, voilà. Ça sort donc demain Shadow Warrior 3, et bon, bah, c'est le lointain héritier d'une série un peu plus mineure de FPS, pardon. Je vous laisse vous renseigner si vous ne connaissez pas trop le milieu. La suite, ça se passe chez Funcom. C'était un jeu blague, c'est devenu un vrai jeu. Est-ce que ça sera une blague pour autant? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve pas ça très joli ni très lisible, mais je suis sûr qu'il y a un public, très probablement le public des streamers qui jouent et qui streament à plusieurs. Conan Chop Chop est également une sortie de demain. Any pro gamer tips for this?
Who's this little girl?
Everyone's Teddy before. Bear!
Alright, we'll keep an eye out for Teddy Bear. Trainer!
It's a trainer!
We are kitted out now. Oh no! Oh no!
Alors, puisque la question a été posée, oui, il me semble que c'est une création qui se repose aussi sur une collaboration avec les créateurs de le ou les créateurs, je ne sais pas, de Cyanide and Happiness, n'est-ce pas? Donc Conan Chop Chop, qui au début, je le disais, était une sorte de poisson d'avril, mais ensuite et c'est, voilà, a été vraiment lancé en tant que projet au sein de Funcom. Ça sort demain, et c'est vrai que, comme le saligo partial que je suis, je n'ai pas précisé que Shadow Warrior sortait en jour 1 sur le PlayStation Now. Pas le PlayStation Plus, le PlayStation Now. C'est vrai, merci de m'avoir rattrapé, évidemment. Le prochain jeu qui sort demain, là on est sur la niche de la niche de la niche. On va pas regarder la bande-annonce en entier, mais juste rappeler que ça existe. THQ Nordic sort demain le nouveau Piranha Bytes, Elex 2, monde ouvert, action RPG, double A, probablement bourré de bonnes ambitions, mais également développé par une tout petite équipe, parce que c'est Piranha Bytes.
Jax, you're back. Look, I know we've had our differences in the past, but there's a new threat to Magellan that could be the end of all of us. You need to head out there again. You know our planet. There's ravenous wildlife making every step a calculated risk. The beasts are terrifying as ever, from small threats like rock dragons and night shadows to
the massive ice trolls. Elex, tout comme avant d'autres action RPG de Piranha Bytes, comme Risen ou comme Gothic, c'est de l'action RPG donc en monde ouvert avec tout un principe de liberté dans le sens de réalisation des quêtes, d'exploration également, ici avec un univers entre fantasy et science-fiction qui était celui du premier Elex, probablement l'un des jeux les moins bien reçus de l'histoire de Piranha Bytes, hein, puisque le jeu était très très cassé, et puis là ils reviennent donc avec un deuxième épisode. Je ne sais pas si vous bénéficierez tout de suite du jetpack dans ce nouvel épisode, parce qu'il y a toujours ce principe de vol normalement à travers l'univers. Et toujours Piranha Bytes, ce studio si particulier qui s'en fout royalement de ne pas avoir ni les ressources financières ni humaines de réaliser des open world, mais qui le fait quand même parce que c'est ce qui les passionne par-dessus tout. Donc on attendra évidemment les tests comme on a attendu les tests de Elex premier du nom. Il en reste un pour la journée de demain. On avait joué un tout petit peu à ce jeu en stream. Comment on avait comparé ça ? Alors, une base de Heroes of Might and Magic. Presque un peu le Be Kind Rewind de Heroes of Might and Magic. Hein, dans le type d'armée, le côté un peu suédé de la chose. Et des combats, eux, en stratégie de temps réel. Où vous dirigez d'immenses régiments. Qui se tape comme ça, façon un peu auto-battler, sauf que vous avez une prise quand même sur les combats. Ça s'appelle Heroes Hour, et ça sort donc demain. Je vous remets la bande-annonce, mais sinon vous pouvez retrouver le stream qu'on avait fait dessus, il doit être encore disponible sur Twitch. Hop, voilà pour Heroes Hour qui sort lui aussi demain et donc avec une BO qui peut s'avérer assez prometteuse effectivement. Il sort sur quoi Heroes Hour demain ? Alors il me semble que le jeu est disponible sur itch.io et ah oui, c'est la sortie Steam il me semble demain et donc avec une base de Heroes of Might and Magic mais en plus Lofi comme vous avez pu le voir et comme je le disais les combats sont eux de la stratégie en temps réel un peu bordélique certes mais vu que vous avez plus d'unités et qu'il y a un côté un peu les pertes sont un peu moins importantes, ou en tout cas un peu moins centrales. Voilà, la partie tactique est un peu moins embêtante. Mais après, faut aimer quand même, parce que j'imagine que pour beaucoup, l'identité de Heroes of Might and Magic, c'est aussi ce côté... Si vous aimez Heroes 2, bon, ça peut être très sucré comme ça au niveau de la direction artistique. Alors que si vous êtes fan du 3, c'est plus ce côté vraiment gritty, couleur cuir, métal, et un peu voilà, PC, comment dire, computer RPG, quoi. Et pour ça, effectivement, pour le très beau, il faudra attendre Songs of Conquest. On va, qui va apparaître à un moment ou à un autre, j'en suis sûr, bien sûr, j'en suis persuadé. On attend. Il est censé arriver au printemps en accès anticipé sur Steam, donc on attend. Mercredi, ce sera la première apparition, parce qu'il va sortir sur plusieurs plateformes à travers la semaine, d'un jeu en partie français ou intégralement français, je ne sais plus, dont on a déjà regardé la bande-annonce plusieurs fois. On a même fait une découverte qui est disponible sur la chaîne YouTube, si ça vous intéresse, à la fois de la narration, mais également de la musique et donc du rythme, avec Musical Story. Donc il se lance sur PlayStation mercredi, sur Switch jeudi et vendredi sur PC et Xbox. Probablement pour, voilà, parce que c'est plus pratique pour eux, j'imagine. Bref, en tout cas, cette semaine, à la fin de cette semaine, vous pourrez jouer à A Musical Story.
This is Pinewood, the festival of dreams. So many people listening to us. Man, that atmosphere. The journey of a lifetime. We were on our way, but... did we make it?
Et voilà, tout simplement. Donc par la team notamment, hein, donc le studio s'appelle Glitches, mais vous y retrouverez, il me semble, les deux loupios, hein, de Afterbeat, un format dédié à la musique de jeux vidéo que vous avez peut-être bien connu à une époque. J'avais pu faire la démo, j'avais adoré le jeu. Vraiment, les clés, les piliers du jeu sont, alors, les petites séquences rythmiques en cercle qui ne sont pas trop compliquées non plus. En fait, elles vont vous demander quand même d'être un peu carré, mais en gros, c'est pas comme si vous aviez des combinaisons de touches à faire, mais c'est juste qu'en fait, à chaque fois que vous réalisez une boucle, eh ben, vous allez passer à une autre, et toutes les transitions illustratives et la manière dont la musique va venir raconter cette histoire, qui semble être un road trip mais aussi un trip à travers les rêves et peut-être également les substances, c'était vraiment très bien fait. Et j'étais sorti de cette démo en me disant ok, il faut absolument que je prenne le temps de le faire. C'est probablement d'ailleurs pas un jeu extrêmement long, je le rappelle, il s'appelle A Musical Story et il sort sur PlayStation, Switch, PC et Xbox au fil de la semaine, à un moment ou à un autre. Un autre jeu qui sort mercredi, lui est un petit peu plus méconnu, mais il m'a juste fait doucement rire avec sa bande-annonce, en tout cas avec son principe de base. Il s'agit d'un point and click, un jeu d'aventure qui va sortir donc sur Steam. Sa démo est déjà disponible à l'heure actuelle si vous voulez vous y essayer. Ça s'appelle Pen's Quest, parce que c'est un personnage qui manifestement va essayer juste de traverser sa journée de manière facile. Le premier des soucis, c'est qu'il trouve pas son pantalon. Voilà, Pen's Quest, du coup. Et voilà donc le 1er mars. Comment ça le 1er mars? Mais non, mais c'est pas vrai. Pourquoi j'ai mis ça au 2 mars? Bref, Pan's Quest, vous avez la démo qui est disponible sur Steam à l'heure actuelle, donc un point and click. Alors, pourquoi In the Hall of the Mountain King? Très probablement parce que c'est pas cher et que ça fait le taf quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on veut inspirer une catastrophe imminente dans une bande-annonce. Donc voilà, voilà pour celui-ci. Un autre également qui sort sur Steam mercredi 2. Oh, comme il est beau. Celui-ci, vous le connaissez un petit peu. Il a notamment été streamé il n'y a pas longtemps par Atomium, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'avais prévu de me le lancer quand il sortira. Donc, on fera probablement justement un stream sur le jeu durant la semaine. Il s'agit de Instruments of Destruction, un truc qui devrait vous rappeler Besiege si vous avez joué à Besiege. Sauf que le moteur physique, là, il est... Voilà. C'est littéralement un ancien de la série Red Faction, qui n'était pas les derniers sur le principe de « on est là pour casser des choses », qui s'est dit « ok, j'aime trop casser des choses, alors je vais faire un jeu où on casse des choses ». Vous croyez vraiment que ça allait rester calme comme ça? La transition, moi je la trouve incroyable, vraiment. Donc Instruments of Destruction, ça sort sur Steam. Donc, est-ce que ce sera l'accès anticipé ou est-ce que ce sera la sortie officielle du jeu? Attendez, je vais vérifier ça. Ça sort donc mercredi 2. Ce sera l'accès anticipé qui se lance dans 2 jours. Et on sera là pour jeter un œil évidemment et construire des choses les plus idiotes possibles. Jeudi 3. Jeudi 3, il y en a un qui va tenter sa chance. Il est là, action RPG, fantasy. Bon, multijoueur, lui, ça va, il a ça, il a ceci pour lui. Mais également, jeu service, tentative haute en risque pour Square Enix et pour Platinum Games. Il s'agit de Babylon's Fall, car c'est voilà, le 3, ce sera le lancement du fameux Babylon's Fall, qui a traversé plusieurs bêtas avec un certain nombre de difficultés.
You survived, but you are no longer you. You have merged with the Gideon Coffin and have become a Sentinel. Our greatest hope in conquering the Ziggurat. It is imperative that you learn how to control your new power. Release the gut strings. No longer will you carry just one weapon. Now you will wield 4. Weapons are your choice. The enemies are not. Choose swords for close combat, to be fast and lethal, and easily combo light and heavy attacks. If you are surrounded, use the spectral attack.
Donc si ce n'était pas clair avec les images, on est sur le mélange entre un, on va dire, beat'em up et une philosophie à la Diablo, donc action RPG jouable à plusieurs avec du loot, de la montée de niveau, du grinding de donjons. Évidemment, c'est toujours le contenu qui fait foi dans ces cas-là, donc il faudra voir avec quel type de contenu il se lance jeudi 3. Donc là, c'est une question hein, en suspens le succès de Babylon's Fall chez Square Enix depuis longtemps, puisque au début tout le monde était hypé jusqu'à ce qu'il découvre que c'était un jeu d'action coopératif à 4. Et depuis, le jeu, c'est vrai, a quand même traversé quelques phases de bêta assez mouvementées entre les personnes qui estimaient le système de combat assez peu plaisant ou pas assez plaisant, celles qui ont notamment déploré les problèmes de lisibilité du jeu, hein, puisqu'au début, Babylon's Fall avait toute son image qui était passée à une sorte d'ersatz de filtre peinture à l'huile qui posait plus de problèmes de lisibilité du jeu qu'autre chose. Le filtre a été extrêmement revu à la baisse depuis, ce qui fait que maintenant le jeu peut parfois apparaître très générique dans son approche. Avant il avait un petit truc à lui, maintenant il ne l'a quasiment plus. Et puis bon ben voilà, hein, voilà, peu de gens sont sortis des différentes bêtas en étant tout à fait ravis. Donc est-ce que le jeu peut réaliser les ventes attendues? Est-ce qu'on le retrouvera dans les fameuses déceptions financières de Square Enix, ou même les jeux qui vendent bien se retrouvent? Malheureusement, un peu peur pour lui. Et Platinum Games, du coup, dont c'est le premier titre service, risque de se retrouver engagé justement auprès de Square Enix pour assurer du SAV peut-être sur la longueur. On espère peut-être pour eux moins long et moins éprouvant que celui d'Avengers. Mais on peut être surpris. Et si ça se trouve, voilà, le jeu va peut-être surprendre au niveau de sa version au niveau de sa version review. Je le rappelle, il sort jeudi 3, donc il sort dans quelques jours. Donc vendredi 4, il nous reste quelques jeux à checker ensemble avant de se dire au revoir pour aujourd'hui. Le premier est un peu moins connu que les deux autres. Il s'appelle What Lies in the Multiverse, et je l'ai fait à la française. Et je crois que j'ai toujours pas bien compris de quoi il s'agit exactement. Ça sort vendredi sur PlayStation, Xbox et Switch. Et essayons de comprendre ensemble de quoi il retourne. Ce qui me perturbe un peu avec la bonne annonce de What Lies in the Multiverse, c'est que le jeu a l'air d'utiliser tellement de mécaniques différentes de plateformes que j'ai du mal à savoir c'est quoi ton twist en fait. Sachant que What Lies in the Multiverse, si vous vous référez donc à sa fiche Steam, un jeu de plateforme et puzzle explosif sur les mondes à l'envers, peut-être une manière d'éviter le mot multivers pour ce coup-ci. Appuyez sur un bouton et changez de dimension, résolvez des casse-têtes et parcourez les étendues sauvages du multivers dans une histoire sombre et hilarante. Et sombrement hilarante, nous dit-on. Donc ça sort, comme je le disais, sur PC, console de salon et Switch vendredi. Oui, il y a notamment la mécanique antigrave de VVVVVV. À voir, mais je sens qu'il va y avoir des streams sur ce jeu. Je suis sûr que vous pourrez avoir les premières infos, en tout cas les infos qui comptent, dans les jours à venir. Ça sent le jeu qui va avoir des petites OP à l'aide d'un partenaire local ou ce genre de choses. Il y a un petit jeu de rien qui nous arrive du Japon, deux petits jeux de rien qui nous arrivent du Japon vendredi. Le premier s'appelle Gran Turismo 7.
One simple example of this weather simulation is a rain cloud radar that many players will be familiar with. Players can look at this display and predict the coming weather to a certain extent. On a huge circuit like the Nürburgring, it can rain on one part of the track while being sunny on a different section.
Donc là, vous devez vous dire que quand même, elle est sacrément bizarre cette bande-annonce et qu'elle n'est pas très rythmée. C'est normal, je vous ai mis le très très long segment de plus de 30 minutes disponible sur la page YouTube de PlayStation. C'était le State of Play qui lui était entièrement dédié. Et donc vous aurez énormément d'infos à ce moment-là. Donc le nouveau Polyphony Digital qui sort à la fois donc sur PlayStation 5 et sur PlayStation 4. Ce vendredi, mais ce n'est pas le seul jeu japonais, on va dire, d'un gros éditeur à nous arriver vendredi. L'autre s'appelle Triangle Strategy.
new future is before us. A bright future.
Today, we fight not for glory or pride, but for survival. For the future.
The future of Glenbrook lies in your hands now.
You are responsible for more than just your own life now.
I need to become stronger. I must.
Donc, hein, évidemment, hein, les créateurs de Octopath Traveler vous font le coup des différents héros avec voilà, des destins très particuliers. Alors, je ne sais pas si celui-ci sera articulé de la même manière avec les points de vue différents. Ceci dit, si vous voulez essayer le jeu, vous pouvez du coup découvrir notamment la puissance de sa BO. Vous pouvez le faire, on rappelle que c'est une exclusivité Switch, vous pouvez le faire avec une démo qui est déjà disponible sur l'eShop et qui vous permettra d'avancer sur les trois premiers chapitres du jeu. Après quoi, vous pourrez importer votre progression depuis la démo vers le jeu complet. Une manière pour Square Enix de vous rappeler que la première dose est gratuite via la démo justement. Donc c'est le nouveau jeu de la team Octopath. Et comme je le disais, moi si je n'ai pas le temps d'y jouer tout de suite, je risque de me pencher énormément sur sa bande originale sans plus attendre. Donc vrai jeu de tactique au tour par tour hein, pour le coup. Manifestement également très verbeux, soyez préparés. Donc c'est vraiment pas genre on va pas de combat en combat. Il y a beaucoup de dialogues, très doublés. Tout le monde ne trouve pas ça très bien écrit d'ailleurs pour le moment. Oula. Allons-y.
You'll pay for what you've done to my family!
Everyone has the right to choose their own path based on their own convictions.
Seal the might of my magic!
Think you can take it?
I care only that you and the legacy of House Wolfwater are safe and secure.
Can you handle my might?
Since you should be seeking mercy, I swore.
Bon alors évidemment, hein, quand je vous dis que tout le monde ne trouve pas ça bien écrit, moi je n'y ai pas joué donc je ne peux pas livrer un avis, hein. Ne voyez pas ça comme un test en avance bien sûr. Voilà, renseignez-vous sur le jeu, il y aura très probablement des tests qui arriveront justement à l'heure pour la sortie vendredi, Triangle Strategy, donc le nouveau Square Enix, Octopath Team, exclusivité Switch. Et voilà, est-ce que c'est toujours Yasunori Nishiki pardon, à la BO? Ça emportait parfois la marque, je crois qu'il est toujours aux affaires sur le jeu, si je dis pas de bêtises, mais probablement pas tout seul, comme d'habitude. Et donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on peut le rappeler, démo disponible, les trois premiers chapitres, la possibilité de garder votre progression depuis la démo jusque dans le jeu complet. Voilà, tout l'argumentaire commercial a été réalisé. Tiens, ma déco est cassée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre ça. Bon, bref, il nous reste une bande-annonce à regarder. Je voulais terminer sur quelque chose d'un peu plus indé, un peu plus découverte. Un jeu donc qui sort vendredi sur Steam, mais dont la démo est déjà disponible. Sauf si elle a été retirée, parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du Steam Neo Festival. Si vous voulez rattraper des démos qui étaient disponibles durant cette semaine, c'est aujourd'hui que ça se termine. Il s'appelle Gunborg Dark Matters. Et... Gunborg. Ça envoie, hein. Ça fait un peu nordique. Ça envoie. Du coup qui se lancera également sur Switch, PlayStation et donc PC à côté de ça. J'aime beaucoup les animations du personnage de Gunborg, cependant ça n'a pas l'air facile, c'est un peu genre le Elden Ring des Mario si vous voulez. Et je pense que j'ai dit la pire chose qui ait jamais été prononcée par une personne au monde. On va donc pouvoir se dire au revoir et se souhaiter une excellente semaine. Merci beaucoup pour cette précision, Rockman Ishii. Il ne s'agit pas donc de Nishiki sur la BO de Triangle Strategy, mais de Akira Senju. Ah oui, effectivement, qui est plutôt sur Full Metal Alchemist. Très bien. Et qui n'est pas trop normalement dans le jeu vidéo. C'est vrai qu'en plus, j'avais lu que cette fois-ci, c'était pas Nishiki. Maintenant, tu me le rappelles. Et c'est bon. Nous. On va se dire au revoir, parce qu'il faut, et là je vais le dire avec, pour les podcasts, sachez qu'il va y avoir des gros guillemets, je dois vous laisser car je dois aller mettre en ligne la matinale. Hein ? D'accord. Oh ça réveille ! Oh comme ça réveille ! Merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents ce matin pour la matinale jeux vidéo. J'espère que la couverture de l'actu vous a plu. Vous avez un maximum d'informations, je l'espère, sur ce qui s'est passé ce week-end. On se donne rendez-vous, nous, mercredi, pour la prochaine matinale actu. Mais avant ça, il y aura demain matin. Et demain matin, ce sera donc du jeu vidéo, lequel je ne sais pas encore. Très probablement pas Elden, comme vous le savez, puisque celui-ci, je veux vraiment pas me le faire spoiler. Je me le fais dans mon coin. Mais je suis sûr qu'il y aura de quoi faire. Je me fais pas de soucis. Je tiens à vous remercier évidemment pour les subs sur Twitch, pour les follow sur Twitch, pour les gens qui sont passés également vers Utip, hein, ma page Utip que vous pouvez rejoindre en allant sur utip.io/gotos ou en suivant le petit QR code qui se trouve actuellement sur votre écran. Merci à toutes et à tous pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir, alors que mon pouce n'a pas fonctionné. Attendez. Ah quand même, voilà. Il va y avoir un raid, restez dans le coin, mais surtout n'oubliez pas que cette vidéo s'en va sur YouTube avec la version chapitrée comme d'habitude, que vous pouvez vous abonner à la chaîne VOD YouTube si ça vous intéresse, mais également la version podcast, et je le répète, je baisse le son pour le dire, la version podcast existe, vous pouvez rattraper ça à l'audio si ça vous intéresse, il vous suffit de chercher la matinale jeux vidéo sur votre plateforme de podcast et vous me trouverez. Alors c'est le format tel qu'il est actuellement, hein, y a pas de recoupe, on ne coupe pas les bandes annonces, mais si vous voulez vraiment avoir les débuts, en tout cas avec les actus, ça permet déjà d'avoir une bonne livraison d'actualité jeux vidéo régulière sur votre application de podcast. Prenez grand soin de vous, merci pour tout, excellente journée, nous sommes lundi, il n'est que 11h07, la semaine ne fait que commencer. Prenez grand soin de vous, à plus.